Nous sommes mercredi 27 mars 2024 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Donc c'est le grand retour.
Eh oui, après,
comme se dire.
Après avoir été paumé en conseil d'administration et été dans un train, j'ai enfin retrouvé le chemin du dojo.
C'est du bar, c'est surtout ça. Bonsoir Renard qui nous revient pour une expertise un petit peu spéciale, vous allez voir, à propos du thème de l'émission.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Pilier de bar.
Officiellement pilier de bar. Et bonsoir Zergi qui a retrouvé un micro. Non, il est reparti le micro.
Apparemment, non.
ça marchait tout à l'heure. Ah, le pauvre.
Quelle tragédie.
Marchait pendant les répétitions.
Ouais, c'est ça. Mais ça m'a. Ça fonctionnait
très
bien tout à l'heure.
C'est ça d'avoir un micro qui vient de la Seconde Guerre mondiale. Hein.
On avait presque l'impression. Le thème de l'émission de ce soir est un petit peu particulier puisque nous allons discuter des jeux Switch impressionnant, c'est-à-dire voilà, la console a 7 ans, on s'est dit faire un bilan des 7 ans c'est pas très intéressant, ce qu'on va aller regarder c'est les jeux qui ont vraiment dépassé les limites de cette petite machine, on vous en dira plus tout à l'heure, mais on va commencer par notre traditionnel tour de table de l'actualité, et je vais commencer par Mecton qui a une très bonne nouvelle et qui va enchaîner avec Renard, vous allez voir la transition va être extraordinaire.
Qui est une bonne nouvelle, ma console est morte, mais bon.
Non, pas celle-là de nouvelle.
La bonne nouvelle, F-Zero sur Switch, les enfants. Oui.
La carotte vient, attendez.
Voilà, bon, la carotte, c'est que c'est la version GBA qui sort sur le online vendredi.
C'est déjà bien.
Voilà.
C'est déjà bien, on passe plein.
Enfin, c'est pas la meilleure version, non?
Ça dépend lequel. Parce que sur GBA, il y en a deux.
C'est 3. Maximum Velocity qui sort.
Ouais, donc c'est pas le meilleur.
N'empêche, ils poussent petit à petit tous les F-Zero.
C'est vrai que Zergy a raison, on avait déjà fait la blague sur F-Zero 99, c'est pas bien. C'est un running gag. Oui, pardon, excuse-moi Renard.
Je disais juste, bah, il commence petit à petit à pousser tous les F-Zero, on se demande est-ce qu'il prépare le terrain, est-ce que non. On croise les doigts.
Ouais, bon.
Ma semi-nouvelle à moi, c'était plus que, en réponse à l'annonce justement de la sortie de cette version GBA de F-Zero, il y a un compte Twitter, @MagicaSoft, qui est donc japonais, qui du coup a sorti une petite anecdote. C'est qu'il avait gagné un modèle de Game Boy Advance appelé la Hot Violette, avec des flammes. C'est beau. Parce qu'il était arrivé deuxième dans une compétition nationale de contre-la-montre.
Sur F-Zero GBA.
Sur F-Zero GBA, effectivement.
Et ça, c'est quand même la classe.
Et oui, c'est la classe. Surtout que, bon, c'est une Game Boy Advance bleue, un peu violette, avec juste quelques flammes sur l'écran et haute violette, mais c'est cool quand même. C'est très beau.
Clairement. C'est des modèles un peu rares, je suppose, mais ça doit être juste un sticker posé dessus
oui,
en plus.
Oui, oui. De ce qu'il nous dit, c'est l'une des trois seules consoles au monde comme ça.
Putain, ben, ça fait plaisir.
Et oui, ça fait très
plaisir.
Pas
se cacher, ça fait plaisir.
Ça fait très plaisir. Et sinon, mon autre nouvelle...
Voilà, c'est ça que je voulais... Alors, je voudrais quand même... Bon, le drift, on a l'habitude. Hein. Je veux dire, les sorties de piste ne nous sont pas inconnues.
T'es en train de dire que Renard, il dérape trop, c'est ça?
Je suis en train de dire que tout le monde dérape.
Oui, c'est assez connu. Oui,
Il y a Zergy qui nous rappelle qu'effectivement, il y a une GameCube Heineken qui a vraiment existé, qui était distribuée aux employés d'Heineken en Allemagne pour un événement spécial. Et il y en a apparemment deux ou trois seulement. Mais c'est pareil, c'est juste un sticker posé sur la GameCube. Hein, donc
il n'y a pas le décapsuleur qui remplace le truc pour la prendre derrière la GameCube. C'est pas un décapsuleur.
C'est ça, le port cartouche, tu sais. Enfin, le port de carte mémoire, c'est un décapsuleur. C'est une bonne idée. Bref. Ouais. Donc, Renard, à propos de Drift, mais attention, pas sur les Joy-Con. C'est quand même suffisamment rare pour être signalé.
Voilà, et pas non plus sur les routes de Tokyo, les PS5, leurs manettes, elles driftent aussi. Et on se demande ce qui se passe.
Bah, c'est de la merde.
Oui, surtout que, merde, mes vieilles manettes de PS1, PS3, jamais de drift, ils font quoi avec?
J'ai l'impression que, en fait, alors c'est une impression persistante, mais j'ai le sentiment que tous ces composants-là se sont un peu standardisés et que la qualité a du coup un peu baissé. Mais c'est peut-être C'est peut-être une idée, mais voilà, ce que nous souffle Zergy, c'est qu'effectivement tout le monde utilise les mêmes sticks. Alors ceux de la Switch sont plus petits, donc c'est pas forcément les mêmes. Mais j'ai l'impression que genre il y a un fournisseur du composant qui permet de faire des potentiomètres ou je sais pas quoi qui permettent de fabriquer le joystick, et que globalement la qualité a soit baissé, soit je ne sais pas, il y a plus de concurrents, donc il y a plus personne qui peut les fabriquer autrement.
Ouais, mis à part peut-être les concurrents chinois.
Mmh. Je pense que les fabricants sont chinois, hein, sans vouloir.
Je crois que tout est fait en Chine, juste pas dans la même usine.
Ouais.
Si ça se trouve, tout le monde soit basé sur le même design, ça me choquerait absolument pas. Hein.
C'est la vraiment, monopolie, le capitalisme.
C'est un peu ça, quoi. Et malheureusement, quand tu as des composants, je pense que sur une manette, il y a quand même pas mal de composants qui coûtent un petit peu cher, parce qu'il faut qu'ils soient, entre guillemets, un petit peu de qualité. Et je pense que le fait d'économiser 10-20 centimes sur un joystick, bah, c'est pas rien, quoi. Quand tu produis quelques centaines de milliers, quelques millions.
Ouais, forcément.
Voilà. Mais j'ai le sentiment que ce truc-là est en train de revenir leur mordre les fesses à tous. C'est-à-dire Sony, Nintendo et même Microsoft, puisqu'on se rappelle que sur la Xbox One, on avait aussi des problèmes de drift sur les
joysticks. C'est une épidémie.
Ah, ça, c'était l'ancien VRP de Microsoft quand il disait que si vous voulez une console sans connexion internet, fallait la Xbox 360. Je crois que c'était plutôt là où il driftait.
Ouais, là, c'était peut-être ça qui driftait. Effectivement, il y a peut-être un. Putain, puis lui aussi, on lui en a mis plein la gueule. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on fait la blague. Bref. Je vais terminer rapidement ce tour de table de l'actualité par une nouvelle, alors joyeuse et un petit peu triste à la fois. Vous connaissez Super Mario Maker ?
Ah, non, c'est quoi, oui. Mortal, dis du tout.
Donc la version Wii U de Super Mario Maker, comme vous le savez, le online de la Wii U s'arrête le 4 ou 6 avril, je sais plus exactement. Donc c'est genre la semaine prochaine ou la semaine d'après, donc ça, c'est très 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 vite. D'ailleurs, j'espère qu'il y a un certain Jean qui pourra peut-être faire un live sur Splatoon 1 pendant que le online coupe. J'ai envie qu'on fasse ça. On se dit ça s'arrête à 22h, bon, voilà, on branche le live à 21h45 et on va jusqu'au bout de ce qu'on peut.
C'est vrai que les serveurs sont toujours en ligne pour celui-là.
Voilà, mais ça va s'arrêter dans un peu de temps, et donc bah, les courses de Super Mario Maker vont s'arrêter aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne pouvait plus les partager parce qu'il n'y avait plus de Miiverse, mais on pouvait continuer à les uploader. Et en fait, quand on a les codes, on peut simplement les partager via le code. Et je vous rappelle le principe, hein, dans Super Mario Maker, vous fabriquez un niveau, vous le finissez, une fois que vous l'avez fini, vous pouvez l'uploader, et évidemment, il y a un concours à faire les niveaux les plus difficiles, les plus cons, les plus cruels, les plus débiles.
Batailles de boss aussi.
Exactement, il y a des trucs complètement, complètement idiots. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, un certain nombre de gens de la communauté Super Mario Maker se sont rendu compte que tous les niveaux n'avaient pas été finis. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux qui avaient été uploadés, mais qui n'avaient jamais été finis par personne. Le taux de complétion, c'était 0%.
Alors, rappelle que pour uploader un niveau, il faut que le créateur l'ait terminé. Voilà.
Il faut le finir.
Je crois qu'il y a peut-être une petite exception, j'ai eu. Comme quoi, il y avait quelqu'un qui avait trouvé le moyen d'uploader son niveau.
Alors,
sans le finir.
On sait comment, mais du coup, c'est justement ça la tristesse du truc. C'est que bah, tous les niveaux ont été finis, sauf un qui s'appelait Trimming the Herbs, qui était un niveau très 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 difficile. Et du coup, il y a une espèce de course qui s'est lancée à celui qui arriverait en premier à finir le dernier niveau de Super Mario Maker, puisque bah, on peut plus en uploader, donc c'est vraiment le dernier. Et en fait, malheureusement, on a appris que c'était un niveau qui avait été fait en tool assisted speedrun, c'est-à-dire à partir d'un émulateur, et qui avait été uploadé derrière sur les serveurs de Nintendo. Donc en fait, c'est pas un niveau qui a été fait de manière légitime, c'est un peu moche, donc du coup il a été exclu officiellement du classement. Donc en fait, Super Mario Maker, ça s'est fini plus tôt que prévu. C'est un peu triste.
C'est triste.
C'est-à-dire qu'on pensait avoir une magnifique course pour finir le dernier niveau, et en fait, bah, y a plein de gens qui ont jeté l'éponge en disant « Bon, attendez, si c'est un robot qui l'a fait, c'est pas très intéressant. Finalement, le jeu, on l'a déjà fini, quoi. » Donc ça s'est un peu terminé en queue de poisson. Alors que... Car c'est dommage, quoi. Il y avait un côté un peu beau dans ce challenge de dire « On va finir le dernier niveau de Super Mario Maker avant que ça s'arrête et qu'on puisse plus du tout hein,
aller le chercher. » Alors que Jean se la pète dans le chat.
Oui, les niveaux avec 4% de réussite, bah voilà. Imagine les niveaux avec 0% de réussite, quoi, c'est assez ouf quand on...
Salut Jean.
Alors, nous allons faire une première pause musicale. Nous allons écouter un petit morceau de...
Un petit gospel.
Même pas. Tu vas voir, c'est particulier. Le morceau s'appelle Amazing Grace, il est sur la bande originale de Wolfenstein 2, The New Colossus. C'est composé par Mick Gordon, Martin Stig Andersen et Ravi Krishnavaswamy.
Sûrement un indien.
Non, a priori, il est slovaque.
Ah,
j'ai aucune idée. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Ah,
ils sont merveilleux. Ah mon dieu, c'est caca. Attendez.
Ah, attendez. Ah bah non, attendez. C'est exceptionnel.
C'est caca, tu veux dire, on parle de Witcher 3 sur Switch en 1660p?
Oh, c'est pas gentil.
Attends, et merde, pourtant, c'était pas ça l'intro du sujet.
C'est pas gentil.
Et pourtant, il tourne.
Et c'est, bah, ça pourrait être ça le titre de cette émission.
Et pourtant, il tourne.
Alors, je vais me permettre de faire un tout petit peu, deux, trois petits rappels hein, pour introduire un peu le sujet. On a quand même un truc un petit peu particulier, c'est que la Switch, elle a 7 ans, donc elle est sortie en 2017, ça nous rajeunit pas, hein, on était tous beaucoup plus jeunes et beaucoup plus fringants.
Mon dieu.
Et beaucoup plus fonctionnels.
C'est un hardware qui est déjà, lui, vieux de 10 ans. Puisqu'il contient une puce Nvidia Tegra X1 qui a été conçue en 2013, donc ça veut dire que c'est un hardware qui a plus de 10 ans, et quand il est sorti, il avait déjà 4-5 ans, donc on est quand même pas sur le truc tout nouveau. Je précise aussi que la machine, enfin Nvidia a fait quand même quelques modifications pour Nintendo, donc c'est basé sur un Tegra X1, mais un petit peu poulet aux hormones, quoi. C'est-à-dire qu'il est quand même un petit peu boosté sur certains trucs. Bref, donc on savait au moment de la sortie de la machine que ça allait être une machine assez limitée. C'était une console portable avec des capacités, certes, mais bon, on savait qu'il fallait pas non plus s'attendre à un miracle. Trois limites très importantes sur Switch, puisque on est là. Le CPU. Alors, c'est pas une PS5. Donc
c'est même moins qu'une PS4.
C'est même moins qu'une PS4. C'est, d'un point de vue puissance de calcul, on va dire brut, ce serait l'équivalent plus ou moins d'une PS3, Xbox 360, mais en fait, c'est très difficile à comparer, c'est des architectures très différentes. Donc,
oui, voilà. on est sur un appareil qui est mobile, en fait, en c'est priorité, ça. Et pas un,
j'ai un appareil de salon. J'ai des stats sous les yeux, si vous voulez.
Bah, vas-y, si t'as un truc...
Alors, par rapport à la PS4, le processeur de la Nintendo Switch est 1,6 fois moins rapide. Il a 0,84 tétaflop en moins et il a 4 gigabits de mémoire vive, donc RAM.
C'est ça, il y a moins de RAM, mais c'est surtout le problème sur Switch, c'est que la bande passante de la RAM est un petit peu limitée.
Et effectivement, 25,6 gigabits par seconde, là où sur PS4, on est à 176 gigabits par seconde.
Exactement, et ça fait une grosse différence, c'est-à-dire que finalement, c'est le truc compliqué, les développeurs Switch, ce qu'ils disent, c'est que le truc compliqué, c'est de maintenir en fait de bonnes performances de croisière, parce que bah, il faut vraiment streamer depuis la RAM en permanence, c'est pas forcément très très simple. Pareil, on a un GPU très limité, mais avec une excellente couche logicielle qui a été réalisée en collaboration entre Nvidia et Nintendo, qui s'appelle NVN, hein, Nvidia Nintendo, vous êtes malin. Voilà, donc on a une très 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 bonne couche logicielle qui permet vraiment de bien exploiter la machine, contrairement aux autres machines Tegra X1 sorties par Nvidia qui utilisent Android, qui est pas foufou pour les jeux vidéo, on va se le dire. Et la dernière limitation de taille sur Switch, c'est la cartouche. Parce que, bah voilà, vous avez pas des Blu-ray double couche Ultra HD, je sais pas quoi, qui font 125 Go pour mettre le jeu. La plus grosse cartouche jamais sortie sur Switch, c'est 32 Go.
Là, on parle de quand même beaucoup de jeux qui vont être avec des trucs à télécharger.
Oui. Alors, soit des trucs à télécharger, soit des trucs coupés.
Non, j'allais dire une connerie. Oui, non, 32, je vois de laquelle tu parles. Pardon.
Bah, justement, c'est le tout premier jeu dont on va parler, qui tourne sur un moteur qui s'appelle le Red Engine 3. C'est The Witcher 3, qui est sorti sur une cartouche de 32 Go.
Yes.
Et qui tourne, ce qui est quand même un putain de miracle quand on y réfléchit, parce que bah, c'est The Witcher 3, quoi.
Oui, c'est un des jeux les plus beaux de la PS4 à sa sortie en 2015. Enfin, globalement, c'était un peu le maître étalon hein, du monde ouvert à l'époque. C'est vrai que se dire que
avant,
ça tombe
bah,
sur
Breath
Switch.
The Wild.
Non, mais on parle de graphisme et de taille. Parce que d'un point de vue graphisme, Breath of the Wild est quand même clairement en dessous de Witcher 3. Voilà. C'est ça dont je parle.
Et j'aime beaucoup cette version, simplement pour le fait qu'elle montre que, avec les concessions techniques qui sont faites, parce que, bon, il faut se l'avouer tout de suite, le jeu est 1000 fois moins beau sur Switch que sur configuration plus costaud. Mais ça montre que ce jeu, même si tu lui enlèves sa partie technique incroyable, il reste putain d'intéressant. Et ça, c'est cool.
Mais en fait, c'est ça qui est impressionnant sur The Witcher 3, c'est que finalement, c'est un jeu impressionnant par sa taille, par l'échelle qu'il arrive à atteindre en réalité. Parce que d'un point de vue technique, on va être honnête, hein, la version Switch, bon oui, c'est moins beau qu'une version PS4, même la version PS4 de base, hein, je parle même pas de la PS4 Pro, de la PS5 et ainsi de suite, hein, ou de la Xbox One et consorts, on reste quand même sur une version vraiment très 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 light du jeu. Hein, c'est vous prenez la version PC, vous mettez tout au minimum et vous plissez les yeux. C'est à peu près ça.
C'est ça.
C'est ça.
Coucou mais... Chaminou, fallait que je le place. Merci pour les pièces.
Le jeu est là en entier. Quand on achète la version cartouche, on a effectivement sur la cartouche l'intégralité du jeu. Alors il y a eu des patchs entre deux pour optimiser tout un tas de trucs évidemment.
Et c'est DLC.
Et l'intégralité des DLC effectivement.
Donc c'est le Passion Gaming, c'est bien.
Voilà, c'est une espèce de version best-of en plus, donc c'est quand même un bel exploit. Je précise que ça a été fait par un studio qui s'appelle Saber Interactive, et vous allez voir qu'on va en reparler un petit peu après. Je vous gâche rien. Donc, The Witcher 3, si vous avez envie d'y jouer aux chiottes, en fait, c'est quand même pas mal.
D'autant que si vous le possédez sur d'autres plateformes, le cross-save est présent. Ça, c'est
ah,
cool.
Ça je ne savais pas, tiens.
Ah, ça c'est cool. J'ai jamais vu trop ça, mis à part sur Hades, par exemple.
Il y a Divinity Original Sin 2 aussi qui est là.
On va y revenir sur celui-là aussi. On va y revenir. le second jeu...
Witcher 3, Chaminou, c'est validé.
Oui, Witcher 3, putain. Bien joué. Le second jeu dont on voudrait vous parler, c'est Metro Redux, qui tourne lui sur le 4A Engine, qui sont faits donc par des... Alors je sais plus si ils sont hongrois ou russes, je me souviens plus exactement. Voilà, Metro, c'est une licence assez connue, Metro 2033, donc il y a eu deux jeux, il y a un Metro Redux et il y a... Alors qui contient d'ailleurs, je crois, les deux jeux, t'as Metro 2033 et t'as le deuxième, et je me souviens plus comment il s'appelle le deuxième.
C'est Paris Jeux Olympiques, ce sera à peu près le même enfer.
C'est à peu près ça, il y aura des zombies partout et tout. Oui, c'est 4A comme l'andouillette, c'est exactement ça.
Ah, on a parlé de Skull and Bone ?
Non, s'il vous plaît, pas de Skull and Bone. Voilà, donc un jeu qui reste très impressionnant. On va pas y arriver. Donc Metro, c'est un jeu qui est quand même assez conséquent aussi. Pareil, tout le jeu est sur la cartouche. Enfin, les deux jeux sont sur la même cartouche. Il tournait à l'origine sur PS3 et 360. Le jeu tourne aussi bien sur Switch, voire même un peu mieux sur Switch que sur ces machines-là. Ce qui fait quand même un truc assez balèze, hein, on va se le dire.
J'ai envie de dire, la PS3, elle était très compliquée à travailler avec de base. Elle a un processeur hyper puissant, mais très dur à exploiter. Et elle est un peu vieille, donc ce serait un peu logique, ouais.
Ouais, mais il fallait quand même... voilà, quoi, tu as quand même un jeu qui tournait au max. Là, il tourne pareil au max, max de résolution, 30 FPS sans problème, sans un hockey, et oui. Le truc du début à la fin, il tire la route, quoi.
Ouais, oui. Pour rebondir sur ce que disait Renard, c'est vrai que là, tu sens le SDK de Nvidia, alors, avec sa documentation en anglais, tout ça, qui ont pu faciliter certaines choses, quoi.
Je pense aussi, oui. Peut-être tu nous raconteras peut-être une petite anecdote sur la PS3. On attendra un tout petit peu, parce que justement, j'ai un jeu parfait pour ça. Notre candidat suivant sur la liste, c'est Dying Light. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu.
Je crois avoir vu une review, mais c'est à peu près tout.
C'est le jeu de zombies. Alors ça tourne sur un moteur maison qui s'appelle Chrome Engine 6. Alors je ne sais pas où sont passés les Chrome Engine 1 à 5, hein. Je suis désolé.
Est-ce que c'est des moteurs qui bouffent la RAM de la machine?
Peut-être, c'est peut-être le cas. Dying Light, c'est donc un jeu de zombies. Et en fait, pour la sortie du 2, le 1 est sorti sur Switch. Il était déjà sorti sur PS4. C'est un jeu du tout début de la vie de la PS4. qui est assez impressionnant par pareil son échelle, parce que finalement c'est un jeu de zombies en monde plus ou moins ouvert, dans lequel on peut faire un petit peu n'importe quoi. Et bah, mine de rien, t'as quand même un jeu qui a des grosses couilles, quoi. Le truc, il y va. Et, alors évidemment, comme d'habitude, comme pour The Witcher 3, il y a des grosses concessions qui ont été faites au niveau graphisme, mais tout le jeu est là, il tourne, et il tourne plutôt bien. Donc franchement, pareil, t'as envie de jouer un jeu de zombies sur les chiottes, est-ce que c'est une bonne idée ? Je suis pas certain, mais voilà.
Bah, disons que si jamais tu commences à avoir un petit peu mal au ventre, t'es au bon endroit.
C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, donc Dying Light, je peux pas recommander le jeu, j'ai pas suffisamment joué avec, j'ai dû faire 2 heures de jeu dessus, donc voilà, je ne sais pas ce que ça donne à long terme, mais en tout cas, ça reste assez impressionnant. Encore une fois, hein, c'est l'Orez, effectivement, on perd pas mal de détails et tout ça, mais le jeu tourne, et il pareil, il est en intégralité sur la cartouche, il n'y a pas de téléchargement, c'est vraiment tout le jeu sur la cartouche. Point. Donc là-dessus, quand même, bien joué les gars. Candidat suivant, je pense que la Mecton va pouvoir nous ressortir sa petite anecdote sur la PS3, parce que je pense que... Voilà. Sur le moteur qui s'appelle Cathode, qui est un moteur maison je crois que c'est Creative Assembly, si je ne dis pas de bêtises. Alien Isolation.
Incroyable. Incroyable le jeu.
Incroyable.
J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu, donc qui se passe après Alien 2, mais qui raconte l'histoire de la fille de Ripley, machin. Enfin, un très bon jeu de cache-cache.
C'est un peu ça, c'est un jeu d'infiltration et de cache-cache qui est dans l'univers d'Alien, donc comme tu disais, entre Alien 2 et 3.
Oui.
Originellement
avec une très bonne ambiance. Pardon.
Une excellente ambiance. Originellement sorti sur PS3 et sur PS4, c'est un de ces jeux hybrides, finalement, hein, entre ces deux générations-là. C'est-à-dire le jeu est sorti sur Xbox 360, sur PS3, sur Xbox One, sur PS4, voilà, tout début de vie de ces machines. C'est un jeu qui est hyper beau, mais vraiment hyper beau. Le travail sur les textures est absolument hallucinant.
Je savais pas qu'il était de PS3. Je l'ai le jeu grâce à l'Epic Game Store. Je croyais que c'était un jeu de PS4.
Et ben alors, il est sorti sur PS4 et le truc étant, la version Switch, par certains aspects, notamment sur les textures, notamment sur le travail des ombres et des lumières, est meilleure que la version PS4.
Non.
Si. C'est moi qui le dis, c'est Digital Foundry. Et en fait, mais quand t'as la version PS4 et la version Switch à côté. Tu vois que les textures sont plus travaillées, qu'il y a vraiment le cuir, on dirait vraiment du cuir. Enfin, il y a un boulot sur les aspects des matériaux qui est assez démentiel.
C'est intéressant, en fait, aussi de se rappeler que comme c'est un jeu qui est sorti sur PS3 et à la sortie de la PS4, c'est une époque aussi où on maîtrisait pas aussi bien la PS4 que maintenant. Donc en vrai, je serais pas étonné que justement, avec le recul et les optimisations, ça a été plus facile sur Switch. Enfin, t'as un meilleur résultat.
Je serais pas choqué non plus. Hein. Puis en plus, alors... Faut voir aussi que c'est un jeu relativement lent, hein, c'est-à-dire que c'est pas oui. Du fast FPS, hein, c'est un jeu de cache-cache. Il y a assez peu d'éléments interactifs, c'est-à-dire que les décors sont quand même assez figés, donc finalement ça aide peut-être un petit peu aussi. Hein. On va quand même
yes, pas se cacher. Pour moi, donc,
ouais, mais quand même.
Encore une fois, le SDK, donc le Software Development Kit, en gros la bibliothèque qui te permet de faire le jeu, fait la différence, et sa documentation en anglais. Là, je place mon anecdote sur la PS3. Donc, j'étais à la fac, un mec d'Ubi vient nous faire une petite conférence où il explique l'enfer que c'était pour développer cette console avec la documentation en japonais, les commentaires dans le code en japonais, et la fiesta qu'ils avaient fait le jour où ils ont réussi à afficher un putain de triangle sur cette console, quoi.
C'est pour ça que les traducteurs, c'est important, messieurs dames.
C'est pour ça, oui,
c'est un traducteur en entraînement qui est en train de vous le dire.
Ben voilà, mais en fait, c'est super important, effectivement, la bonne documentation, et puis encore une fois, le kit de développement qui est bien fait, qui est bien optimisé, la partie logicielle, en fait, est aussi importante que la partie matérielle, surtout pour les créations, on va dire, modernes, c'est-à-dire les consoles d'aujourd'hui. Allez, je le place parce qu'il faut le placer sur le Creation Engine, que vous ne connaissez pas.
Oh putain, hein, encore un truc avec de la religion ?
Non, même pas. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bon, ok, il est sorti sur tout, y compris ta grand-mère.
On va être... c'est le cousin de Doom sur cet aspect.
Oui, là-dessus, ils sont quand même très 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 balèzes. Donc c'est sorti partout, donc on pouvait s'attendre à ce que... à ce que ça sorte sur Switch, mais en fait, la version tourne vachement mieux. C'est-à-dire la même résolution que la PS4. Et tourne vachement mieux que sur 360, mais quand il est sorti sur 360, Skyrim, c'était quand même c'était très 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 compliqué.
C'est-à-dire, on a eu la version débuggée en fait. Quoi.
Bah, c'était la version remaster, je crois, en plus que c'était sur Switch, c'est pas la version de base.
Yes. C'est pas la version de base, c'est la version remaster qui était déjà un peu retravaillée.
Ouais, il fallait bien, parce que moi j'ai la version PS3 anniversaire, là, machin, ça reste buggé, hein.
Oui, puis ça rentre du cul, hein, faut le dire. Même la version 360, qui devait être la version la plus stable, elle est pas à 30 FPS, hein, c'est...
Je me rappelle quelques ralentissements, mais ouais.
Ça reste quand même un petit peu compliqué. Alors, malheureusement...
Quel putain de jeu.
Oui, non, mais... Et le jeu, c'est pareil, est en entier sur la cartouche. La seule chose qu'il faut télécharger, c'est les langues, si par hasard tu veux autre chose que l'anglais.
Ah oui, c'est vrai.
Mesdames et messieurs, l'optimisation de code, c'est très bien.
C'est bien aussi, comme la traduction, on va se le dire. Un autre jeu qui m'a été fortement soufflé par un collègue, et effectivement j'ai jeté un petit coup d'œil, mais j'ai pas pu m'y essayer, c'est pas sorti en cartouche, et je trouve que c'est dommage, ça a peut-être desservi un peu le jeu, c'est Grid Autosport. Alors il y a très 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 peu de simulations de bagnoles sur Switch, hein,
C'est Simu, on est d'accord, c'est pas de l'arcade.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est Simu Burnout.
C'est Sim Arcade.
Ok, oh là là. Putain, j'adore.
Oui, donc c'est Arcade.
Je
sais pas si c'est. Enfin, j'aurais beaucoup de mal à dire. Pour moi, ça se veut simulation, mais c'est quand même un petit peu simplifié.
Ça se veut simu, mais c'est pas chiant. Ça reste un jeu. Et ça m'intéresse.
Ça. Je pense que c'est. Alors, c'est. Il y a très très peu de. On va dire de jeux de bagnole réalistes. On va pas dire de simu ou d'arcade, mais de jeux de bagnole qui. Voilà. On a quand même les deux poids lourds du genre. On a Burnout Paradise, qui tourne sur Renderware sur Switch. J'espère que vous admirez l'exploit. Qu'on aurait pu mettre dans la liste, mais que finalement, n'a pas eu le cut. Il y a Need for Speed, je sais plus lequel, il y a un Need for Speed qui est sorti sur Switch.
Oui, Most Wanted.
Most Wanted. Qui, pareil, est tout à fait sympathique. Lui, c'est le troisième, mais Grid Autosport, il est vraiment impressionnant parce que tu as des options de customisation aussi pour dire bah, est-ce que je veux une belle qualité d'image ou est-ce que je veux les 60 FPS. Et il n'y a pas beaucoup de jeux qui te laissent ce choix-là, mine de rien. Et le jeu reste. Vraiment super optimisé pour Switch. C'est-à-dire que quand tu regardes ton nez, tu fais OK, on dirait une PS4, on va dire un début de génération PS4 sans problème, quoi. Voilà, ça tourne sur un moteur qui s'appelle le Ego Engine 3.0, vous le saurez, et qui apparemment est un truc maison de Codemaster.
Codemaster, j'étais en train de chercher, merci.
Voilà. Codemaster qui a aussi fait
Colin McRae Rally.
Ouais, voilà. Qui est un petit jeu de mon enfance et qui est bourré de code à la con.
Oui, c'est malheureusement ça. Maintenant, c'est des DLC, monsieur.
Ouais. Ils ont aussi fait Micro Machine.
Oui, tout à fait.
Codemaster.
Alors, Renard, tu étais venu exprès pour ça. Donc tu vas avoir une petite place un petit peu spéciale là-dessus.
Let's go!
Sur le moteur Evolution, donc tu vas pouvoir nous parler un tout petit peu d'ailleurs, parce que c'est intéressant, j'ai pris 2-3 trucs. Porté par Panic Button, attention, c'est un nom qu'on va réentendre pas mal de fois.
Oui, on va beaucoup les caresser, le Panic Button. Mm. On veut pas appuyer dessus, on veut juste le caresser, pour qu'il y ait juste cette sensation de danger.
Non, attendez, on n'a pas mis le Peggy 18 là.
Enfin, bref.
Voilà, Renard, donc Warframe sur le moteur Evolution, un jeu qui date de 2013,
effectivement. C'est un des petits projets de Digital Extreme, au début fondé pour bosser avec Unreal sur les Unreal et Unreal Tournament. Du coup, c'est pour ça que pendant longtemps j'ai assumé que Warframe c'était sur Unreal Engine, parce que bah, ils connaissent surtout ça. Mais du coup, bon, bref, donc c'est leur petit projet depuis un long moment et ça date depuis 2008, là où ils ont commencé à concevoir justement l'Evolution Engine et qu'ils ont développé du coup la première ébauche de Warframe sous le nom de Dark Sector, qui pour certains doit rappeler quelque chose, parce que ça a été un jeu que je recommande absolument pas sur PS3. L'histoire, c'est que ils ont pitché Warframe pour PS2. Ça devait être de la sci-fi un peu dark, un mélange entre Metal Gear Solid et et Star Wars. Et tous les publisseurs étaient du genre « Ouais, c'est cool, mais vous pouvez pas faire du Gears of War. »
Les bâtards.
Je jure que c'est ça. Et du coup, ils ont fait un Gears of War.
Oui, Dark Sector, qui est un Gears of War, effectivement.
Voilà, qui honnêtement, vous le trouvez à genre 3 euros en plusieurs exemplaires dans n'importe quel Planet Cash, etc.
J'allais dire Emmaüs.
Ou Emmaüs, oui. Je ne vous le conseille pas, à moins que vous êtes intéressé par l'histoire de Warframe comme moi. D'ailleurs, j'ai le jeu. Je l'ai d'ailleurs actuellement sur ma télévision. Je l'ai un peu testé avant de venir. Et c'est effectivement le même engin. Et il tourne pas mal sur PS3, honnêtement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, ils ont quand même réutilisé l'engin sur trois autres jeux, à savoir le multiplayer de Homefront. Parce que
pas un bon souvenir, le multiplayer d'Homefront.
Non, mais c'est bizarre parce que généralement, Digital Extreme est plutôt connu pour leur jeu de shoot, parce que comme j'ai dit, ils ont travaillé sur les Unreal Tournament. Mais ils ont aussi fait le multiplayer de Bioshock 2. Ils ont aussi fait le portage de Bioshock 1 sur PS3. Et ils font du shoot. Et ils font du bon shoot. Et ensuite, ils ont utilisé l'Evolution Engine sur The Darkness 2.
Qui est un jeu assez méconnu, mais pas inintéressant de ce que j'ai compris, parce que c'est l'adaptation d'un comics qui est assez marrant aussi lui-même.
Oui, je crois qu'ils avaient dit que c'était une comédie noire, les développeurs. C'est le même auteur que The Darkness 1, donc si ça vous intéresse, essayez-y. Et ils ont finalement utilisé The Evolution Engine pour Star Trek, le jeu vidéo basé sur le film de J.J. Abrams. Qui est un film correct.
Le truc en multijoueur, là, c'est ça ?
Je crois, honnêtement, je sais pas. Je m'intéresse pas. Okay. Je préfère le Star Trek du bon vieux temps parce que j'ai vu les vieux films.
Bref, et donc pour revenir sur Warframe, est-ce que le jeu lui-même... Alors déjà, tu t'es rendu compte, effectivement, en jouant à Dark Sector, que la lumière ressemblait vachement à Warframe, il y avait quand même plein de détails qui ressemblaient vachement à Warframe.
Oui,
est-ce que le jeu lui-même est sympathique? Je veux dire, t'as passé combien d'heures dessus déjà?
8800 putains d'heures.
Ça me trouve.
Voilà.
Voilà. J'ai passé 2 ans dans ce putain de jeu, et je cherche à ce que ça soit rentable.
Mon Dieu, c'est un jeu service, hein, c'est bien ça, il est gratuit et c'est des microtransactions derrière, c'est ça ?
Oui, mais c'est presque d'ailleurs le patient zéro du live service, mais je considère que Warframe est le standard que tous les live services devraient faire. C'est un très bon jeu, y a même une anecdote, c'est qu'à une époque, ils avaient introduit du coup les cavates et les chiens, j'ai oublié le nom, c'était des compagnons, et ils peuvent avoir des patterns spécifiques. Et ils avaient fait un truc qui était un petit peu d'une... une machine à sous, ils avaient appelé. Et lorsqu'ils se sont rendu compte que... Ah merde, les joueurs, ils dépensent vachement de sous là-dessus. Bah, ils ont retiré ce côté-là.
Ah merde, t'es méconnête. Voilà. Qu'est-ce que
c'est que noble.
Ah, ça veut pas dire qu'ils sont totalement honnêtes. Il y a eu, par exemple, l'histoire du nerf d'Hydroïd. Donc, c'est une Warframe qui a une perk qui lui permette d'améliorer le drop des mods qu'on se sert pour améliorer les Warframes. Et du coup, ils avaient nerfé cette perk. Et derrière, ils avaient offert dans le Prime Access, qui est un petit peu le truc qui vendent, qui coûte un peu cher, justement, booster de mods. Mais la communauté n'avait pas apprécié. Et du coup, ils ont engueulé et ils se sont excusés et ils ont annulé le nerf. Voilà.
Okay. Bref, donc, alors, moi j'ai quand même un truc avant qu'on passe au jeu suivant. Est-ce que tu recommanderais Warframe aujourd'hui et sur Switch ?
Alors, déjà je vous dis que je ne recommande pas Dark Sector. Warframe, je le recommande avec un astérix.
C'est marrant, tu vois, au bout de 8000 heures, t'as une relation de amour-haine. C'est fascinant.
C'est pas complètement de l'amour-haine. J'aime Warframe, mais je reconnais complètement que ça a été extrêmement chronophage. Et bah, je le recommanderais pas à tout le monde. Genre, si vous avez très peu de temps pour vous, non, allez jouer à autre chose. Si vous avez vachement de temps libre, là, par contre, allez-y, c'est un très bon jeu, honnêtement.
Allons-y
D'ailleurs, il y a
donc.
eu une mise à jour aujourd'hui.
Comme toutes les semaines.
Non,
C'est pas
non,
le principe.
pas comme toutes les semaines. Faut pas,
Faut pas
c'est plutôt
exagérer.
tous les mois.
Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais.
C'est
C'est
déjà
peu
pas mal.
depuis 10 ans quand même, hein, je rappelle, en 2013. Hein, donc, je vais passer la parole à Mecton pour nous parler de Red Dead Redemption qui tourne donc sur le Rockstar Advanced Game
Ouais.
Engine, soit REG, ce que je trouve tout à fait drôle,
Ah mais
délicieux.
voilà, c'est ouais, toujours les devs qui font des petites blagues comme ça. Eh ben, il tourne super bien. Après, ça reste un GTA-like à l'époque du Far West. On va pas revenir dessus. La douille, c'est qu'il est vendu prix fort, alors que c'est un jeu qui commence à être un petit peu vieux. Mais bon, tout voilà. Toujours plaisant de voir quelque chose de ce calibre-là qui tourne sur Switch et qui tourne infiniment mieux que la GTA trilogie d'époque, quoi.
Dont on reparlera un petit peu. Je vais reprendre le Crash War pour vous parler de l'Azura Engine, que vous ne connaissez peut-être pas, que vous ne connaissez sûrement pas, qui en fait est le moteur maison qui fait tourner Sniper Elite et Zombie Army. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Sniper Elite, ils sont tous sortis sur Switch, hein, Sniper Elite V2. Alors, je précise, Sniper Elite 1 n'existe pas vraiment. Hein, c'est une espèce de jeu de commande, et en fait, Sniper Elite, s'il s'appelle V2, c'est pas le deuxième épisode, c'est juste bah, la version qui marche de Sniper Elite le premier. Je vous le donne comme ça, c'est gratuit, c'est pour moi.
Et bim, hop.
Non mais c'est vrai. Donc ils sont tous sortis sur Switch, hein, Sniper Elite V2, Sniper Elite 3 et Sniper Elite 4. Faut savoir que Sniper Elite 4 est sorti aussi sur PS4, donc c'est quand même pas un petit jeu à faire tourner. Hein, y a quand même des gros décors, il y a quand même voilà, des grosses cartes à faire tourner, et ça tourne très très bien sur Switch. Et ce jeu a deux cousins, enfin on va dire trois cousins. Le premier c'est Zombie Army Trilogy, qui à l'origine était un mode de Sniper Elite V2, qui consistait à juste dézinguer des zombies pour finir une map en multijoueur, qui est devenu un jeu à part entière. Donc il y a eu trois DLC, un Zombie Army 1, 2 et 3, qui sont devenus un jeu Zombie Army Trilogy. Ça tourne sur le même moteur et ça reste très impressionnant parce que t'as vraiment des salles énormes avec une quantité d'ennemis gigantesques et. Enfin voilà, vraiment faut. T'en prends quand même plein 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 les yeux quand tu fais ça, et ça tourne très très bien sur Switch, hein, je le précise encore. Et donc il y a un de ses petits cousins qui s'appelle Strange Brigade,
Ah oui!
qui tourne aussi sur Azura Engine et qui est un très bon jeu,
Il
qui est
est
très
drôle
très
ce
drôle, et
jeu!
il est très marrant, c'est énormément d'humour. Donc là c'est pareil, tu es une espèce de pilleur de tombes, ça se joue à deux. Normalement, alors ça peut se jouer tout seul, mais idéalement il faut y jouer à deux, ou je crois qu'on peut faire des escouades jusqu'à trois. Et l'idée, c'est bah, c'est un peu la même chose que les Zombie Army, finalement. L'idée, c'est d'aller activer un mécanisme, combattre des momies, et puis avancer comme ça. Le truc est très très drôle en plus.
La subtilité n'était pas pour eux.
Non, clairement, c'est voilà. Et le dernier jeu en date sur ce moteur-là, qui marche extrêmement bien sur Switch, c'est Zombie Army 4 Dead War. Pareil, donc c'est le même principe que Zombie Army Trilogy. Hyper arcade. Je vous le recommande aussi chaudement. Il faut savoir que les développeurs ont énormément bossé pour que le jeu tourne correctement sur Switch. C'est-à-dire qu'ils ont même adapté les cartes de toutes les versions, hein, pour que sur Switch ça puisse tourner dans les contraintes de la machine. Donc ils se sont vraiment cassé le cul pour que ça tourne. Et ça nous fait quand même plaisir de voir des gens qui prennent le truc un peu à cœur. Voilà, on va faire rapidement les inconnus, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le moteur, mais on va glisser quand même quelques mots du jeu parce que ça reste des trucs assez, assez balèzes. Dark Souls Remastered, alors oui. On se fout un petit
Bah
peu de la gueule du
ouais,
jeu, mais quand même.
oui, il tourne.
Il tourne.
Ça reste un jeu de merde, mais il tourne.
Merci, ce sera la conclusion. Divinity Original Sin 2. Donc là, t'as quand même.
Ouais.
Alors, c'est pas impressionnant techniquement, ça, graphiquement.
Non, c'est le contenu en fait.
Mais t'as un contenu de fou furieux.
Ouais.
C'est la patte de jeu l'Ariane, ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais là,
Comme
t'as
sur Warframe
vraiment.
aussi.
Et t'as vraiment un contenu de fou pour une cartouche qui est en 16 Go, et il y a l'intégralité du jeu sur la cartouche si vous l'avez eu chez Limited Run. Mais sinon, je crois que c'est 15, 15,9 Go, tu vois, en téléchargement. C'est les mecs sont
Ah,
pile
c'est
à
au
la limite, tu
poil de
vois.
cul,
C'est.
quoi!
Et il y a de l'amour dans ce jeu. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans cette version Switch parce que tu sens que les mecs ont vraiment fait l'effort pour vraiment tout mettre. Il y a pas de, y a rien qui est caché, il y a rien qui est enlevé.
Il faut apprécier l'effort.
Il faut apprécier l'effort. Bah, c'est pour ça qu'on est là. Cette émission, elle est aussi consacrée à faire un petit bravo à certains développeurs pour leur dire, les gars, bien joué.
Voilà, on est dans le cierge de pompe.
Un peu.
Oui, dans le merci.
Diablo 3 Eternal Collection. Alors pareil, ouais. C'est quand même l'intégralité de Diablo 3 qui tourne.
Qui pour le coup tournait aussi sur PlayStation 3.
Ouais, mais avec quelques difficultés. Hein.
Bon, bah, écoute, j'ai jamais eu trop de soucis, moi, mais...
J'avais compris que c'était quand même un peu laborieux, mais c'est peut-être... Mais voilà, mais on peut admirer quand même Diablo 3, le jeu entier qui tourne. Je glisse un petit mot pour Nier Automata, parce que je sais que ça fait très plaisir à Mecton.
Ah, jeu de cœur, ça, ouais. Oui, alors, est-ce que techniquement c'était impossible de le faire tourner? Je sais pas, mais putain, c'est tellement cool de l'avoir sur Switch, quoi.
Ah, c'est clair.
Ah, je pense surtout que quand tu dois le refaire 20 fois.
Non, 5. T'as pas à le refaire 20 fois. Juste 3.
Juste 3. Mais c'est très cool, c'est pas un jeu qu'on imaginait tourner sur Switch. Voilà, ça fait partie des portages qu'on a attendu et qui marche très bien.
La concession, c'est qu'il est à 30 FPS, là où ailleurs il pouvait être à 60.
Alors bon, sur PlayStation 4, je sais pas, il devait être à 30 aussi. Enfin, il devait être à 60 aussi.
Mais la question, c'est 30 FPS constant ou pas?
Stable. Oui, stable.
Non, c'est très
si c'est stable et que c'est en solo,
stable, voilà. C'est typiquement le genre de jeu où la concession technique elle passe parce que le message du jeu il est tellement fort.
C'est ça. Ouais, bon. Et on va terminer cette petite série des inconnus avant de faire une pause musicale par No Man's Sky, dont on a déjà parlé dans un
domaine. Oui, là aussi le jeu de l'amour, quoi, putain.
Générateur de wallpaper,
c'est un peu ça.
Voilà. J'ai entendu, a eu beaucoup de mises à jour et donc maintenant il est bien.
Alors déjà quand il est sorti sur Switch, alors je rappelle, le jeu a beaucoup souffert, on a une émission entière consacrée au jeu, donc allez la réécouter, hein, vraiment ça vaut le coup. Le jeu a énormément souffert et c'est vrai que un jeu de cette échelle là, parce que là on parle bien d'échelle un peu délirante, c'est...
C'est taré, hein.
C'est taré, je veux dire, c'est des dizaines de milliers de planètes générées, c'est un univers entier, alors évidemment c'est de la génération procédurale, ça n'est entre guillemets que du calcul, mais putain, fallait le faire tourner sur Switch, quoi. Et le jeu est pas moche, hein. On en est même très loin, la résolution est un petit peu faible, mais ça tourne à 30 images par seconde, ça rame pas trop. Même quand tu commences à crafter des trucs un peu foufou, ça tient le coup. Là, les mecs, chapeau bas, quoi, fallait quand même y aller. Hein. Surtout que c'était un argument de vente pour Sony, pour le jeu No Man's Sky, quand ils en ont fait la promo, c'était de dire ça ne peut tourner que sur PS4, tellement il y a de puissance requise.
C'est ce qui les a tués, d'ailleurs.
C'est peut-être ce qui les a tués, parce qu'effectivement, les gens en attendaient peut-être beaucoup trop. Mais voilà, donc c'était amusant.
J'ai une petite dernière mention pour les jeux avec moteur inconnu. Outer Wilds.
Ah, alors le moteur n'est pas inconnu, monsieur.
Ah, pour moi.
Ah non, attendez. Non, je dis de la merde, je confonds avec un autre.
Dans tous les cas, moi, c'est un jeu qui rentre dans la catégorie des jeux, des portages impressionnants, parce que c'est un jeu qui est déjà très exigeant pour de la PS4. Je me souviens l'avoir fait sur la console, et tu sens que le jeu... il est un peu à l'étroit sur PS4, donc il existe sur Switch. C'est déjà un petit miracle. Je sais pas comment il tourne. Mais voilà. Je me souviens qu'entre l'annonce et le moment où c'est sorti, c'est quand même écoulé genre une bonne année et demie, quelque chose comme ça.
C'est clair. Ouais, bien, ouais, même peut-être bien 2 ans et demi. Ouais.
Il y a eu du boulot, a priori. Je crois que j'ai compris, c'était le processeur le problème. Parce qu'il faut gérer le mouvement du système solaire en temps réel.
C'est ça. Pour les connaisseurs, en fait, c'est un jeu qui est pas hyper impressionnant visuellement, mais qui calcule la totalité de son monde en permanence.
Oui, non, ce qui est impressionnant, c'est la gestion du monde.
Oui, voilà, et il y a même genre deux planètes qui en fait sont une espèce de sablier vivant, donc il faut y aller.
Effectivement, c'est... Mais on reparlera de jeux qui payent pas de mine, mais qui derrière la quantité de boulot qu'il y a eu pour arriver à les faire tourner, elle doit quand même être un petit peu pétée.
Je glisse une dernière chose. Suis un petit peu... Je l'ai un peu mauvaise qu'ils ont pas pensé à faire un sablier pour la version Deluxe Collector, là.
Ah, c'est vrai.
C'est vrai que ça aurait pu. On va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Subnautica. Parce que vous allez voir, on va en reparler. Le morceau s'appelle Into the Unknown. C'est écrit par Simon Chilinski. Et ça dure un petit peu moins de 3 minutes. On se retrouve tout de suite après.
Attention.
Thank you.
Et nous voilà de retour. Et on va continuer alors avec des moteurs plus connus. Donc là, on a vraiment fait des trucs un petit peu... Quand on a le nom, c'est bien, vous avez vu qu'on a pas mal d'inconnus. Là, on va rentrer dans les trucs un peu connus. Un peu... voilà.
Qui ont un peu là, c'est du moteur standard du marché, c'est pas juste du moteur maison. Hein.
C'est ça. Là, on est plus... Enfin, presque, en fait.
Presque pour les tech.
Presque pour les tech. Alors, même si... bon, ça peut se discuter, mais voilà. On va commencer par le CryEngine, qui a donc servi à faire Crysis 1, 2, 3... sur Switch et Kingdom Come Deliverance qu'on a fait vendredi dernier en stream. Tout ça c'est porté par Saber Interactive. On en reparlera. Vous allez voir. Pareil, ce sont des gens qui connaissent a priori très très bien la Switch parce que voilà, ils savent faire 2-3 bricoles. Alors autant Crysis, je peux pas recommander les jeux parce que je trouve que c'est pas des bons jeux. Je suis désolé encore une fois Méduse, je sais que t'as kiffé le 2 mais voilà. Néanmoins,
le 2.
Quand on sait comment ça... Enfin, tu vois, que les efforts qu'il fallait pour faire tourner Crysis sur PC il y a 15 ans...
C'est ça, à l'époque, c'était genre, ton PC, il va flamber, quoi.
C'est ça. Alors là, c'est Crysis Remaster, dans le moteur a quand même été retravaillé depuis et autres, mais ça n'empêche pas. Crysis 1 sur Switch...
Ton PC, il va flamber, mais ça va.
C'est ça, ça va, ça passe. Crysis 1 sur Switch, ça reste très, très, très impressionnant. Il y a vraiment, il y a tout. Il y a la physique, il y a les lumières volumétriques, il y a... Le jeu, il te met quand même une bonne claque dans la tronche de ce point de vue-là. C'est con que ce soit pas un bon jeu, quoi. Pour de vrai, hein. Parce que vraiment, hein, t'en prends vraiment plein les mirettes. Je pense que c'est un des plus beaux jeux de la Switch sans problème. Enfin, purement sur l'aspect technique, c'est vraiment... C'est assez scotchant.
Et ça, c'est définissez le beau.
Ouais, là, c'est compliqué. Techniquement, très impressionnant. On va dire ça comme ça. On va enchaîner avec une grosse pelletée d'Unreal Engine. Donc, je vous les mets un petit peu en vrac comme ça, mais vous allez voir...
Si vous en reste un petit peu de côté, on vous le mettra. Hein.
C'est ça, ouais. Sur Unreal Engine 3, nous avons donc Bioshock The Collection, qui reste...
Vrai. Alors qui a le petit défaut pour le coup de pas être intégralement sur la cartouche.
Eh oui.
Ah bah le j'ai envie de dire trois jeux sur une cartouche, faut pas pousser.
C'est peut-être un peu
plus
compliqué.
Le vrai défaut c'est Bioshock Infinite en réalité.
Ah le bâtard.
J'aurais dit le 2, tu vois.
Ah bah non, là je suis en désaccord. Je trouve le 2 très bien.
Donc voilà, tu vois, c'est à ça qu'on reconnaît les bons jeux, ils créent le débat.
Oui. Maintenant, vous pouvez pas me dire que les jeux ne sont pas très beau déjà d'un point de vue là le style oui, et la direction artistique
la DA est géniale, c'est pour ça que je disais définissez le beau quoi.
C'est compliqué, ça tourne sur Unreal Engine 3 et ça tourne très bien sur Switch. Alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter la cartouche? Vous allez quand même vous taper dans les 25Go de téléchargement, donc
si vous avez joué à aucun des jeux, oui ça vaut le coup.
Mais par contre oui, si vous avez jamais joué à Bioshock, vraiment jouez à Bioshock, hein, pas de souci. Surtout qu'en plus c'était une collection qui était à prix budget quand elle est sortie, je crois qu'elle était à 30 balles.
Ouais, et ça valait carrément le coup à ce prix là.
Oui, complètement. Rocket League, Unreal Engine 3 aussi. Alors,
GG.
Rocket League, c'est Panic Button.
Est-ce que ça tourne bien?
Ça tourne extrêmement bien, ça tourne à 60 FPS. Le seul truc, c'est qu'il y a un double buffering. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une frame de retard sur l'affichage.
Ah, c'est pas possible alors. Mauvais jeu.
Mais je connais plein de gens qui sont là, genre, non, c'est pas possible. Hein.
Les gens
qui jouent sur PC, quelqu'un qui joue sur PC, mais à un niveau... très très élevé, hein, Patrick, si tu nous
d'accord.
écoutes, on te fait des bisous. Qui et dit Rocket League sur Switch, impossible. Hein. C'est voilà, la frame de retard, ça tue tous ces
incroyable.
Ces stunts et ces machins, ça marche pas.
Mais impossible n'est pas Panic Button.
Il y a des sacrifices. On va être clair, la résolution est quand même très en deçà, mais le jeu tourne et tourne très bien et il est crossplay à travers toutes les plateformes, que tu y joues sur Steam. Sur Epic Game Store, sur Mac, sur Xbox 360, sur PS4, sur machin... Tu peux jouer avec des utilisateurs Switch, et rien que là-dessus, je trouve qu'il y a quand même un sacré exploit.
Ah, c'est un exploit qui est crossplay ?
Ah oui, t'en as pas beaucoup.
Les crossplays, c'est pas encore très commun. Hein.
C'est pas du standard. Hein.
Mais si veux que ton jeu en ligne y tienne, t'as plus le choix maintenant, hein. Faut faire du crossplay. Hein.
Ouais, je pense que ça c'est...
C'est peut-être pour ça que ça a mis autant de temps à venir sur Warframe.
C'est pas impossible, hein. Je pense que c'est pas si évident que ça à faire, parce qu'en plus t'es obligé de t'adapter, plus ou moins.
Oui, il y a eu aussi le problème de la certification, qui a été un gros problème pendant un moment. Nous, les joueurs de Switch, on avait genre dû attendre un mois avant d'avoir la version. Mais maintenant, on a le crossplay, donc tout se passe en ce moment. Bien que pour la mise à jour d'aujourd'hui, ils ont dû annuler le crossplay sur la version iOS Android parce qu'il y avait un problème pour cette version-là.
Putain, ça doit être une galère à gérer ça dans les coulisses, putain.
C'est une grosse galère.
Ça doit être l'enfer. Mecton, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Borderlands?
Borderland, oui.
Qui est sorti sur Switch.
Donc, sorti en même temps que BioShock, il me semble. Donc, alors, même délire, il y a l'intégralité du 1 sur la cartouche, si je dis pas de conneries. Alors, moyennant un peu des petits patchs à la con.
Mais il n'y a pas le BoJack.
Et non, parce que le BoJack est dans le 2, et le 2 est à télécharger. Il y a la pre-sequel sur la cartouche. Ça tourne au poil de fion, et puis, ça fait plaisir, quoi.
Ça fait quand même un gros jeu aussi. Hein,
Le 3 est sorti après, il est sur sa cartouche indépendante.
D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. En Unreal Engine 3, on a aussi Mortal Kombat 11.
Alors, c'est du 3 ? D'accord.
C'est du 3.
Oui, c'est du 3.
C'est du 3. Alors, il est forcément beaucoup moins beau que ce qu'on a sur PS4 ou sur Xbox One, on va quand même pas se cacher non plus. Mais il tourne, il y a tous les persos, il y a tous les décors. Et il est à 60 FPS pour de l'Unreal Engine. C'est un des premiers jeux, il faut savoir, Mortal Kombat 11, qui a eu une dérogation de la part de Nintendo pour avoir le droit d'overclocker la Switch en software.
Oh.
Pour accélérer les temps de chargement. Donc, quand même, il y a un petit peu de.
Peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied, mais on en avait parlé à l'époque. Little Nightmares, ça tourne sur UE3.
C'est Unreal Engine 4.
4, ok.
Je trouve pas qu'il soit si impressionnant que ça, tu vois.
Non, mais tu vois, ils ont peut-être pas eu la dérogation pour les temps de chargement. C'est le défaut que je trouvais à la version Switch.
Je suis un peu d'accord. Mais je pense qu'il fallait quand même un peu négocier avec Nintendo, parce que tu vois, tu dis quand même à Nintendo, écoutez, je vais aller overclocker la Switch, donc tu, entre guillemets, tu fais prendre un risque au matériel, quoi, malgré tout. C'est quand même, faut... Quand tu t'appelles Warner Bros. Interactive, je pense que tu peux aller voir Nintendo en disant « Bon, allez, ma gueule, on fait ça. » Tu sais, je suis déjà très étonné que tu aies cette possibilité-là en tant que simple développeur.
Ah oui, c'est un truc de fou. Ouais.
Voilà, sans pirater le truc, ça me paraît très étonnant. On va upgrader un petit peu, on va passer sur l'Unreal Engine 4. Alors, sur l'Unreal Engine 4, on a plein d'exemples de jeux de merde. On en a... Une petite pelletée, on va pas se cacher.
Forcément, quand tu lâches ton engine à qui le veut, forcément, il y en a qui vont faire des asset flip.
Et ouais, surtout, mais... c'est aussi le premier Unreal Engine optimisé pour la Switch.
Tout à fait.
Au point que même Nintendo l'a utilisé pour certains jeux.
Tout à fait, puisque Princess Peach Showtime qui est sorti il y a...
Ouais.
Petite semaine.
Ouais,
Unreal Engine 4, c'est pas le seul.
Il y avait Yoshi aussi, le Yoshi Woolly World, ouais. Je sais plus comment il s'appelle.
Crafted World.
Et une petite pensée à Triangle Strategy.
Qui tourne sur Unreal Engine, Triangle
oui,
Strategy.
Oui, c'est de l'Unreal. Ah. Octopath aussi, c'est de l'Unreal.
Ah putain, j'avais pas dit le TV.
Et du coup, si je me trompe pas, le futur remake de Dragon Quest 3 aussi sur Unreal, non?
Ah oui, leur espèce de DHD, en fait, chez Square Enix, c'est Unreal. Donc,
voilà.
Okay. Donc les mecs se font plaisir. Pareil, on va vous les vraquer un petit peu. Alors je vais peut-être commencer par les contre-exemples, parce qu'on a cité que des jeux qui étaient plutôt très réussis techniquement,
Al
qui
bâtard.
Parfois étaient des bons jeux. Non mais... Crysis 1, très réussi techniquement, bon jeu, bon, ça se discute, tu vois, on peut... Et D3, je pense que c'est quand même le plus intéressant, hein, donc c'est triste hein, pour le 2 L3. Mais on a eu deux catastrophes industrielles sur l'Unreal Engine 4, enfin, c'est les deux principales que j'ai retenues. La première, c'est GTA Trilogy.
Je comprends pas comment ce truc peut ramer, quoi.
Ouais, mais alors c'est de l'Unreal Engine 4, donc quand tu sais t'en servir, je pense que ça marche bien. Quand tu sais optimiser, je pense que ça marche bien. La preuve, on va vous les donner après, mais quand tu sais pas, putain,
et
c'est chaud.
Hein. Quand tu sais pas, quand tu sais faire qu'avec le zob, et ça ressemble à un zob.
J'adore.
Et voilà, quand tu programmes avec le cube, à la fin, ça ressemble à un cul, hein, on va quand même se le dire.
C'est ça qui est beau.
Et le deuxième, qui est une telle catastrophe industrielle que le jeu est sorti deux fois, une première fois dans un état lamentable, il a été retiré de la vente et maintenant il est ressorti dans un état bien meilleur.
Ah, c'est Morbius.
Non, c'est pas Cyberpunk. C'est pas sur Switch. C'est pas sur Switch, mais bien joué. Ah, je sais pas si vous l'avez celui-là, c'est Ark Survival Evolve.
Ta mère, putain.
Ouais, donc j'avais eu juste quand j'ai dit Morbius.
Ben voilà, la première version du jeu tournait à moins de 10 FPS avec une distance d'affichage pour l'ensemble du truc qui était à moins de 5 mètres. Vous regardez les toutes premières images de Ark Survival Evolve, c'est vraiment flippant.
Yes, et là en tics, tu vois, tu te demandes comment le truc a pu passer la QA. Quoi.
Ah, c'est clair. Là, c'est de l'enfer.
Bah,
ah
il n'y avait pas de QA à mon avis. Hein.
Même Turok N64 fait mieux.
Exactement. Mais attends, Turok sur N64, il tourne à 30 FPS. Hein. C'est Turok 2 qui galère. C'est important.
Ouais, bah moi j'ai grandi sur PS1. Je peux vous dire que 10 FPS, je suis habitué à pas l'optimisation, mais il faut pas pousser non plus.
Ouais, non, Ark Survival Evolve, encore une fois, l'éditeur a retiré le jeu de la vente, l'a reconfié à un autre développeur qui a recommencé. Quoi. C'est pour vous donner une idée. Donc en fait, le jeu est sorti deux fois sur Switch. On a deux versions.
Et même, ils ont... Attends, donc en fait, ils ont sorti le jeu, puis ils ont décidé d'arrêter le développement pour tout recommencer de zéro. J'ai juste...
Alors, je sais pas si c'est... Le jeu existe déjà sur PC, donc je pense qu'ils ont refait simplement le portage, mais avec une équipe qui était un peu plus douée, quoi. C'est aussi bête que ça.
D'accord. Voilà.
Donc c'est juste
d'accord,
pour illustrer, hein, quand on vous dit jeu impressionnant, c'est pas parce qu'il y a écrit Unreal Engine que ça va être un jeu impressionnant, hein.
L'Unreal Engine 4, c'est vraiment pas un truc impressionnant sur Switch. Hein. On l'a dit, il y a plusieurs exemples de jeux qui tournent. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est les jeux qui à la base sont sortis sur, sont été optimisés pour de la PS4 et de la Xbox One, qui sont dispo sur Switch.
Exactement.
Voilà.
Dans les trucs pas mal, pareil, je vous fais un petit vrac. Hein. On a Dragon Ball FighterZ.
Alors pour le coup, c'est vraiment une bonne chose parce que les les jeux de baston comme ça, si c'est pas fluide, c'est mort.
C'est l'enfer.
Oui, les jeux de baston, c'est le truc numéro 1 qui demande du 60 FPS. Le reste, ça va, ça passe à 30, mais les jeux de baston, non, ça en demande.
Non, c'est trop compliqué de baisser. Et en fait, c'est un jeu où il y a eu du sacrifice, hein, je pense. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que le portage est vraiment canon, pas assez pour qu'on puisse implémenter le rollback netcode, qui est un petit peu le saint graal du jeu en ligne sur le jeu de combat. Parce que la Switch est pas assez puissante. Donc,
merde! Ça, je savais pas. Donc, en fait, t'as pas de rollback netcode sur la version Switch de Dragon Fighters.
Non, il y en a pas. Mais il y en a pas non plus, je crois, sur la version PS4 et Xbox One.
Ok.
C'est que la version PC et les versions PS5 et Xbox Series X qui l'ont.
Ok.
Merde. Putain.
Voilà, c'est suffisamment canon pour faire un Kamehameha, mais pas assez pour le laser du signe là dont j'ai oublié le nom.
Oui.
Si vous avez la ref, je vous aime.
Je l'ai pas là.
Non, mais ça, tu vois.
C'est lorsque Goku affronte la première fois le Triclope là. Il y a Maître Tortue qui dit que leur technique du laser du cygne là, parce que c'est l'école du cygne, par rapport au en comparaison, le Kamehameha, c'est, je cite, de la pisse de chat.
Ah, le Kikoro.
Voilà, merci.
Et ben voilà, vous voyez, tu vois que tu l'as la ref.
Ouais, point de vue développeur. Après, on a parlé Dragon Ball plus que DBZ. Mais...
Oui.
Point de vue développeur, juste pour ceux qui. De ma qualité, tu vois, je me la pète, qui nous écoutent. C'est comme le CTRL Z, hein, le rollback, si tu le penses pas dès le début, c'est l'enfer à implémenter après. Mais le rollback, il y en a sur Switch. C'est pas la plateforme qui empêche ça.
Faut le penser dès le début, c'est juste que sur.
Exactement.
Dragon Ball a pas été pensé comme ça.
Exactement. Ah. Mais le rollback, il y en a sur King of Fighters, par exemple.
Bah en fait, Arxis, ils ont déjà rétro à implémenter le rockback dans tous leurs jeux, quasiment. Hein.
Ouais, mais Arc System Works, c'est quand même des artisans hein, du jeu de combat. Hein.
Ils font vraiment ça bien.
Ils sont très chauds. Là, pareil, vous dites depuis le début de l'émission qu'on suce la bite à beaucoup de développeurs. Arc System Works, clairement, on leur suce la teub. Hein. On va être très très clair. Mais alors, on met toute la bouche, hein, y a pas de problème. J'avais envie de vous parler d'un autre jeu, parce que là on était parti dans du glauque, on va peut-être revenir sur le Grand Hellblade, Seuna's Sacrifice.
Alors, tu m'as surpris dans la liste, il tourne en natif ou c'est du cloud ?
Il tourne en natif.
Putain !
Pas de cloud, monsieur, dans ma liste, c'est non.
Putain !
Alors,
et tant mieux, parce que le cloud, j'arrive pas à le faire fonctionner.
Il y a une astuce.
Ah ?
Sur Hellblade, Seuna's Sacrifice, il y a une astuce, comme c'est un jeu très narratif.
Éclaire-moi.
Comme c'est un jeu très narratif, il y a pas mal de séquences du jeu qui ne sont pas rendues en temps réel par la machine, mais qui sont simplement des vidéos. Donc en fait, le jeu transitionne en gros du moteur de jeu à la vidéo. Et donc du coup, t'as un jeu qui est juste magnifique, et puis tout d'un coup, tu reviens à la réalité, et ça devient un petit peu moins beau quand même. voire même franchement moche par moment. Mais
la bonne vieille technique PlayStation.
C'est ça, mais ça reste impressionnant parce que la transition se fait vraiment sans couture. C'est vraiment t'es en temps réel et tout d'un coup ça devient une cinématique et tu t'en rends à peine compte et le jeu là-dessus est quand même assez balèze. Hein. Voilà, donc les séquences qui se passent en temps réel sont, on va dire, beaucoup plus lauraises, même si les mecs ont quand même fait un petit effort pour que ce soit à peu près lisible et tout ça. Mais voilà, ça reste un jeu qu'on attendait, qui est absolument magnifique sur PS4 et qu'on n'attendait pas du tout sur Switch. Mais voilà, il y a une astuce. On a quand même réussi à trouver une petite... petite carotte à mettre là, petite truanderie, mais qui marche super bien quoi. T'es pas au courant, franchement, c'est assez scotchant.
Surprise, motherfucker.
C'est à peu près ça. Darksiders 3. Alors c'est vrai que Darksiders 1 et 2, bon, c'est des jeux qui cassaient pas trois patins. Darksiders
3. Wii U.
Oui. Darksiders 3, c'est un jeu Unreal Engine 4 qui quand même a une petite échelle. Hein. Il y a... Pareil, lui, il a... c'est une meuf, donc on peut pas dire qu'il y a des couilles, mais il y a des ovaires sous le moteur de jeu, ça veut rien dire. Voilà, donc ça fait partie des jeux qui envoient un peu du steak, on va se le dire. The Outer Worlds, alors ça n'a rien à voir avec The Outer Wild, c'est pour ça
c'est
que...
C'est chiant, hein.
Ouais, c'est chiant.
Voilà, il y en a un, c'est une espèce de jeu sci-fi fantasy avec des orques, l'autre, ça part plus dans un délire rétro-futurisme.
Voilà, donc celui-là c'est le sci-fi fantasy avec des orques.
Non.
Non. Alors, attendez, parce que c'est un sci-fi fantasy quand même.
C'est chiant, hein.
Ah, oui, c'est un sci-fi fantasy mais avec un style rétro-futurisme. Non ?
C'est chiant, non, voilà, c'est chiant.
C'est très chiant.
Bref, c'est un jeu qui a une échelle un peu dingue parce que c'est. Alors, c'est par Obsidian, si je ne dis pas de bêtises, donc les gens qui avaient fait Fallout New Vegas, si je ne dis pas de conneries. Vous me corrigez si je me trompe.
KOTOR aussi.
Ouais. Donc t'as quand même du RPG à l'occidental.
Knight of the Old Republic, Star Wars.
Tout à fait.
Pour ceux qui ne l'ont pas.
Du RPG à l'occidental avec quand même énormément de contenu, pas mal de villes à visiter, énormément d'interactions, énormément de trucs possibles, des arbres de décision un peu foufou.
Il était pas dégueulasse à sa sortie, le jeu, sur Switch.
Il était dégueulasse à sa sortie, il a été bien patché depuis, et là maintenant, c'est une version honnête.
On n'en demande pas plus, honnêtement.
C'est un peu ça. C'est pas voilà, c'était pas ça va pas être, vous allez voir, on va parler de jeux un peu après qui sont qu'on voit vraiment du pâté. Voilà, c'est pas le plus impressionnant mais ça reste assez impressionnant quand on voit le cheminement qu'a fait le jeu et puis effectivement quand tu vois l'échelle du jeu, tu te dis OK, ça va quoi, les mecs ils ont un peu bossé leur sujet. On me l'avait glissé dans l'oreillette, il y a Dragon Quest 11 qui est aussi de l'Unreal Engine 4.
Ah okay. C'est lui.
Oui, c'est une version un petit peu revu à la baisse en termes de qualité graphique par rapport à la version PS4.
Tout à fait.
Ah, tu trouves ? Ok.
Non, ça a été remonté.
C'est officiel.
Moi, j'ai pas fait la comparaison, mais oui, c'est visible. Par contre, c'est la version complète.
La géométrie a été un peu... voilà.
C'est ça.
Un peu revu à la baisse et tout ça.
Après, c'est la seule version où t'as la version 2D et la version 3D en Occident.
C'est ça. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est la version supérieure, parce que t'as la version 2D, la version 3D et les musiques symphoniques. Et le petit interlude au milieu du jeu qui est inclus de base dans le jeu aussi.
Ah oui, oh. Putain, t'as pas les musiques dégueulasses 8 bits qu'ils ont mis dans la version PS4, quel plaisir.
Mm. Putain, ce que vous me dites me fait envie, hein. C'est tout à coup. Vous avez envie de Switch là ? Bah voilà, c'est le bon
Suite royale, des petits déjeuners au lit.
Ouais.
Ah, est-ce que vous voulez aussi un concert symphonique dans votre chambre, monsieur ?
Ah bah avec plaisir, écoute, tu viens quand ?
C'est un peu ça.
Et sans dire de conneries, il me semble que cette version complète est ressortie sur les autres plateformes après.
Oui, elle est dispo ailleurs.
Ok.
Ce qui est une bonne nouvelle. Et on va finir sur l'Unreal Engine 4 avec Spyro Reignited Trilogy. Je suis désolé, c'est assez compliqué à prononcer. Spyro Trilogy. Spyro. Très joli.
Bon souvenir.
Sorti sur Switch. Et qui tourne très très bien.
Du coup, il n'y a pas aussi la trilogie Crash Bandicoot ?
Ouais, mais alors ça tourne pas sur l'Unreal Engine, et il y a quand même des gros sacrifices qui ont été faits.
D'accord. D'ailleurs, petit fun fact, sur la version européenne de la version originale de Spyro Year of the Dragon, il y a une démo de Crash Bandicoot, parce qu'à l'époque, les Insomniac et du coup Naughty Dog... s'aimaient mutuellement et du coup ils foutaient des démos de leur jeu dans les autres. Voilà. Et il faut faire un code à la con. Et en plus, cette démo, si vous faites à côté un autre code à la con, encore plus à la con, vous débloquez le dev build et vous avez quasiment tout le jeu. Et il y a un des boss, ils avaient mis des placeholders, et les placeholders, c'était Homer Simpson et Bart Simpson.
Putain, les mecs, quand les mecs s'ennuient, tu vois. Les mecs sortent des bons jeux et en plus, ils s'ennuient. C'est quand même...
Voilà, mais ça veut dire aussi que du coup, sur cette putain de CD de PlayStation, et pour rappel, les CD de PlayStation, ils avaient pas non plus énormément de mémoire, même s'ils en avaient plus que les cartouches. Ça veut dire qu'il y a le jeu complet Spyro, et derrière, il y a le jeu complet Crash Bash. Ce qui est pas mal, quand même.
Ce qui est quand même pas dégueulasse. Mais on retiendra l'astuce, hein. Faudra que tu nous donnes les codes. On va passer par... Ah oui, on en a oublié un pour l'Unreal Engine, qui est quand même le grand-père de tout le monde là-dessus, c'est Fortnite. Hein.
Yes, merci le chat.
Dans le chat.
Pour être exact, Fortnite Battle Royale, parce qu'à l'origine, Fortnite, c'était autre chose.
Il dit vrai, mais voilà.
Voilà. Et d'ailleurs, ce mode est toujours payant et toujours là, le mode d'origine. C'est le mode sauver le monde, je crois.
Ok. Et du coup, tu vois, je me demande si pour la version Switch, ils se font pas chier à maintenir une version UE4 alors que la version PC est passée en UE5.
Alors, je me demande si c'est pas de toute façon rétrocompatible. Hein. Je me pose la question parce que...
Alors...
Ils avaient pas arrêté la version Switch, ou je rêve ?
Non, elle est toujours active. Hein. Elle est active, elle reçoit des mises à jour et tout ça.
Ah non, je confonds avec Paladin, pardon. C'est eux qui ont arrêté.
Oui, c'était leur espèce de Dota 2 ou je sais pas quoi, là.
Ouais, voilà.
On va terminer avec des moteurs un petit peu plus connus.
Ah, mais quand on nous répond, il ne dit pas directement, déjà, entre... Ah non, c'est pour autre chose, désolé.
Pas de souci. On va terminer avec deux moteurs. Alors, un très connu, un, on va dire... connu mais un peu plus confidentiel, connu parce que le développeur est très très connu. Il y a Unity. Alors, Unity, c'est un moteur qui est utilisé pour un peu tout et n'importe quoi, qui a été au cœur d'une polémique l'année dernière, où vous en a peut-être parlé, Wink Wink. Le bâtard.
On rappelle à cause d'un directeur qui nous venait de Electronic Arts.
Ben, normal. Voilà. Qui voulait nous faire payer pour aller à gauche ou à droite avec le stick. Hein. S'il drift, tu payes deux fois. Enfin bref, bon. Une suggestion de Mecton qui était Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisp.
Ouais, surtout le deuxième. Alors c'était surtout pour la vanne, hein, pour le fait que les jeux Microsoft portaient sur Switch, c'était des portages de l'impossible. Ça s'est décanté. Ori 2 était vendu comme un jeu compliqué à porter. Alors, peut-être. J'ai pas.
C'est compliqué de juger.
Je suis pas dans les arcanes de comment c'est branlé derrière. Le 2 tourne au poil de cul sur Switch, quoi.
Et ça fait quand même plaisir.
Et c'est génial, voilà.
Et alors, les jeux Unity, c'est rarement très impressionnant, hein, on va quand même pas se cacher. Ça reste un moteur de jeu peut-être un peu moins violent, on va dire, dans ce qu'il est capable de faire que l'Unreal Engine.
Après, il reste quand même très très populaire sur Switch. Hein.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de jeux indés qui l'utilisent. Il y a même Fire Emblem Engage qui est dessus.
Tout à fait.
Ah, ça reste un jeu populaire. Hollow Knight est sur Unity aussi.
Oui. Oui, comme on a dit, hein, c'est pas parce que ça produit pas des jeux super impressionnants que c'est pas utilisé et qu'on peut pas faire des choses bien avec. Hein. Y a pas de souci là-dessus.
Non. Il y a aussi, par exemple, Game Maker, sous lequel a été fait Undertale, le sous Mother 3, comme nous dirait Jean, qui a été fait sous Game Maker, alors que Game Maker, c'est un moteur encore moins bien, mais qui fait quand même des trucs, quoi.
Tout à fait. Là, en Unity, on a Subnautica. Alors, toujours pareil, Panic Button à la manœuvre derrière. Hein.
À noter que Subnautica, c'est impressionnant de base, parce que Unity est vraiment pas conçu pour la 3D.
Je sais pas si c'est toujours le cas. Ça
ouais, s'est amélioré, oui et non, ouais. Mais généralement, quand tu veux faire de la 3D... il vaut mieux prendre Unreal. Je suis un petit studio indépendant qui s'appelle Parade Software et du coup qui sort parfois des pépites, etc. Sur le développement de jeux vidéo. Et du coup, il disait généralement, il faut d'abord faire la fiche du jeu, genre par exemple 2D ou 3D. Ensuite, il faut voir le moteur et ensuite il faut voir le langage de développement. Et donc, généralement, quand on fait la fiche de jeu et qu'on prévoit un jeu en 3D, on va plutôt se baser sur un moteur Unreal ou autre qui est plus tourné vers la 3D. Et pour un jeu 2D, on va plus aller vers Godot ou Unity.
D'accord, c'est bon à savoir en tout cas qu'il y a des petites... Mais c'est pas complètement illogique non plus si tu ne fais pas ton propre moteur, bien évidemment, mais c'est vrai que...
Voilà, sinon il faut faire son propre moteur, ce qui est parfaitement possible, hein, parce qu'un moteur de jeu, c'est juste du langage pour exécuter.
Mets des grosses guillemets autour de ton juste.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, juste, c'est énormément de programmation, soyons clairs. D'ailleurs, Unreal Engine est en langage C,
tout à fait.
Pour l'anecdote.
Alors C++, je suppose. Parce
plus
que...
plus, oui.
C'est hashtag, je crois. Je sais pas comment on prononce.
C-Sharp.
C-Sharp, c'est Unity.
Ok, c'est C-Sharp.
Bref, donc Subnautica, on a fait toute une émission dessus, donc on vous renvoie aussi pareil. Et c'est ça, ça reste un jeu assez impressionnant, surtout quand on voit la quantité de trucs qu'il faut calculer, en fait. Parce que là, on a vraiment l'intégralité d'un monde sous-marin vivant.
Yes.
Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas aléatoire, c'est toujours la même chose, donc j'imagine que ça doit être un chouïa plus facile de gérer ça.
J'imagine, ouais, mais t'as quand même, je suppose que t'as quand même un petit peu de physique à gérer derrière et
non,
tout.
C'est la quantité, bien sûr.
C'est la quantité, c'est le même délire que Outer Wilds.
Bah, Outer Wilds, Subnautica, le jeu est plus.
Prédictible.
Et plus stable et plus prédictible. C'est pas Outer Wilds où il faut gérer tout le changement en temps réel, où t'as la planète sablier, celle qui s'effondre sur elle-même.
Et aussi, tu peux décoller et aller sur d'autres planètes. Je veux dire, un système solaire contre un océan, c'est pas la même ordre de magnitude.
Ça n'enlève pas la qualité et le tour de force du portage.
Ça n'enlève en rien la qualité.
En parlant de tour de force, on en a un petit dernier sur Unity qui est Cities Skylines. Alors, je sais pas si vous vous rappelez.
Bien joué.
Mais voilà, qui est sorti sur Switch et qui tourne. Ce qui déjà est un truc de fou parce que t'as certains PC que ça met à genoux. Donc je suppose qu'il y a de la magie noire derrière au niveau de la simulation de la ville et qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait calculées comme elles devraient l'être ou que des simulations qui sont mises en pause ou qui sont peut-être simplifiées, j'en sais rien. Mais ça reste assez impressionnant de voir que Cities Skylines, ça tourne sur Switch et ça tourne très bien, même quand on fait des villes très grandes. Voilà, j'ai une ville à quelques millions d'habitants maintenant où ça continue à tourner correctement.
Monsieur a activé le mode Balkany.
Monsieur aime bien les city builders parce que ça me détend énormément le city builder.
La grande ville de Levallois-Perret.
C'est comme ça que j'appellerai la prochaine. Voilà, et on va finir par le dernier moteur de notre liste qui conclura cette émission, c'est Lead Tech 6, qui sert à faire tourner le premier portage de l'impossible sur Switch, le premier jeu où on s'est dit non mais c'est pas possible, ils vont pas porter ça, c'est des fous. C'était Doom 2016.
Doom ! C'est clair, putain.
Il nous a quand même fait halluciner, quoi.
Je maintiens que les noms de moteurs de jeu sont des noms de Transformers. Je maintiens ça.
Ça y ressemble un peu. Oui. Ouais, donc Doom, sur lequel on a fait une émission dessus et tout. Enfin, c'est quand même clairement la folie, quoi.
Oui, après, c'est de la folie pour Doom 2016. Parce que Doom 1980 et quelques...
Oui, non, mais d'accord, mais c'est Doom 2016. Voilà. Viens pas jouer au con. C'est fucking Doom dans ta Switch, là tu peux littéralement jouer à Doom dans tes chiottes, quoi.
Avec tout le jeu sur la cartouche sauf le multijoueur.
C'est ça, il voilà. Y a que le multijoueur à télécharger.
Et derrière, il y a aussi Doom Eternal.
Et il y a Doom Eternal qui est encore plus impressionnant parce que le jeu est plus rapide, plus beau, plus fort, plus grand.
Et tous deux sont portés par...
Panic Button.
Effectivement, Panic Button.
Comme d'habitude, Panic Button, qui sont aussi à la manœuvre sur le tout dernier jeu It Takes Six qui est de la Switch, qui sera de notre liste, qui est Wolfenstein 2 The New Colossus et Wolfenstein Youngblood.
Yes.
Pareil, c'est des jeux que... Ça, pourquoi ? Comment ? Comment
Parce
c'est
que c'est Panic Button, et dans Doom, eh bien, t'es une bombe nucléaire à sous-sol.
C'est ça, mais je pense que Panic Button, les mecs sont un peu des fous. Alors,
J'ai du Mark Twain en tête. Je savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
C'est un peu ça, mais apparemment, chez Panic Button, j'avais lu une interview qui disait qu'ils avaient été obligés d'aller jusqu'en assembleur, donc d'aller vraiment très 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 bas dans le langage pour aller optimiser Lead Tech 6 pour que ça puisse tourner sur Switch, et je n'ai pas de doute
incroyable.
Là-dessus, parce que quand vous regardez Wolfenstein 2 tourner, alors, ou Doom, hein, Doom Eternal, il tourne à une résolution qui est quand même... plus que correct, et tout est là, hein. Y a rien qui a été retiré du jeu.
J'ai une citation, non pas de Mark Twain, mais du Reddit Humanity Fuck Yeah, où les humains sont des orques spatiales. On nous a dit que c'était impossible, alors on l'a fait.
C'est exactement le même truc, mais retourne.
Voilà. Effectivement, ça si vous lisez ces histoires-là, c'est des histoires de sci-fi où en fait ils aiment bien dire ouais l'humanité ce sont des orques spatiaux et donc ils sortent tout le temps ce genre de conneries. Bon, c'est un petit peu de la propagande humaniste, mais ça fait bien. C'est cool.
Voilà, ça termine notre liste des portages de l'impossible. J'espère que dans le lot, il y en aura quelques-uns qui vous auront donné envie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter éventuellement un dernier jeu ou quelque chose
comme ça. On a dû en zapper. J'en ai un en tête. Le Call of Cthulhu tourne très très bien sur Switch. Call of Cthulhu. Oui.
J'y pense, il y a aussi les Persona 5 qui a été porté sur Switch, non?
Alors...
C'est un jeu PS3 à la base.
C'est ça, voilà. Il tourne
oui,
super bien.
Oui, mais c'est la version royale qui a été portée. Qui est oui, non, pas mais... de la PS3.
Ça il reste une base de PS3.
C'est ça. Il tourne super bien, mais techniquement, il n'y avait aucune chance que ça foire.
Moi, j'ai Disco Elysium en tête.
Oh putain, joli. Ouais.
Qui était vraiment en plus abominable à sa sortie sur Switch et qui a été patché plusieurs fois par mois. Maintenant, c'est très très bien.
Ouais, ça, effectivement, ça fait partie des jeux où tu sens qu'il y a du boulot derrière.
En fait, c'est pas un jeu qui est techniquement impressionnant, mais comme c'est un jeu indé, souvent ils ont pas forcément les moyens de faire des grosses optiques pour une architecture aussi petite que la Switch, en comparaison d'un PC.
Un jeu indé récompensé au Game Awards et où les développeurs ont cité Marx.
Voilà. Parce que pourquoi pas.
Et après, il y a eu des problèmes de gestion de boîte.
Oui, malheureusement, ça s'est fini funestement.
Et comme d'hab, c'est le genre de jeu où le GPU bat les couilles, par contre le CPU, lui,
ça doit,
chauffe
ça doit
sa mère.
Quoi. Ça m'étonnerait pas du tout. Bref, on va se quitter là. Normalement, dans deux semaines, on se retrouve pour un Unicorn Overlord, si tout va bien.
Ça vous avait manqué, on va parler d'un Tactical au printemps.
C'est aussi, écoute...
C'est toujours au printemps
d'un Tactical.
C'est toujours au printemps qu'on le fait, c'est marrant.
Oui, non, mais c'est à peu près toujours au printemps qu'on a un Tactical.
Ouais, l'année dernière c'était en janvier.
Oui, parce que c'était Fire Emblem Engage. Mais l'année d'avant.
Et donc ça n'a engagé personne.
Moi j'ai beaucoup aimé Engage.
Sur la partie tactical, oui, sur la partie story, beaucoup moins.
Oui, voilà. C'est la partie story d'Engage, c'est un problème.
C'est un problème à part entière. Bref, donc on se retrouvera dans deux semaines normalement pour Unicorn Overlord ce vendredi. Il y aura Prince of Persia Forgotten Sands. Je pense que la semaine prochaine, on fera peut-être un petit morceau d'un autre live, d'un truc un peu chelou, genre peut-être un bout de Darksiders 3 ou un truc comme ça qu'on n'a jamais fait en live pour que vous voyez un petit peu, on va essayer de filer un peu la métaphore. Mercredi prochain, vous retrouvez Jean pour du Metroid Prime. Si tout va bien, ce sera les streams du goûter. Et en attendant, on vous fait de très 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 gros bisous et on vous dit à dans deux semaines. Ciao.
Bisous.
Bisous. Bisous.